Donc, est-ce que tu peux déjà d'abord te présenter, peut-être un peu ton parcours avant Silou, et puis ensuite venir un peu sur le groupe et ce que tu peux nous en dire en fin d'année 2017.
Ok. Écoute, donc Chris du groupe Silou, batteur du groupe Silou. Mon historique, c'est on va dire le plus marquant, c'est que j'ai été aussi chanteur d'un groupe de fusion rock en fait qui a un petit peu vivoté dans les années on va dire entre 95 et 2000 qui s'appelait Magic et ensuite le truc c'est que comme un instrument qui m'a toujours suivi c'est la batterie, j'ai toujours plus ou moins joué de la batterie et ça a été mon premier instrument et même quand j'étais à l'époque en fait dans le groupe en tant que chanteur je continuais à jouer à côté pour ne serait-ce que pour le fun et c'est un truc qui est toujours resté présent. Donc lorsque moi j'ai ensuite arrêté, j'ai eu une période en fait où j'ai travaillé sur différents projets à droite à gauche en tant que chanteur ou batteur jusqu'à un moment donné en fait où j'ai par le biais de Arnaud Bascognana donc qui est le guitariste et producteur de l'album qui va sortir Motel de Silou, j'ai rencontré Lady Silou et de là on a commencé donc à bosser réellement tous les trois ensemble depuis maintenant une dizaine d'années en fait.
D'accord. Sur ton parcours, toujours orienté assez rock ou t'as pu essayer différents genres ou...
Alors moi fusion, tu disais, mais... à un moment donné, en termes d'influence, justement, c'est vrai que je suis. Et on est tous dans le groupe, mais on est vraiment très très ouvert musicalement. Donc effectivement, j'ai expérimenté des trucs dans des trucs vraiment très très différents. Déjà, même le groupe dans lequel j'ai joué à l'époque, dans lequel j'étais chanteur, était déjà, même sur une base rock, était teinté de pas mal de différentes atmosphères, que ce soit plus groove, que ce soit de musique orientale. Donc il y a eu y a plein de choses qui sont toujours un peu métissées là-dedans et j'ai participé à d'autres projets aussi qui étaient carrément voire plus funk ou plus groovy donc voilà mais c'est vrai que bon ça reste le rock reste une part importante de ma vie donc c'est un truc qui naturellement revient vite au galop.
Ok et pas particulièrement d'attirance pour le métal en général, enfin une musique plus dure ou des musiques plus extrêmes ou
disons que c'est toujours pareil hein. C'est question après de avec qui tu parles dans le sens où quand le fusion le groupe on peut dire était le groupe Magic avec lequel je jouais était un groupe plutôt fusion métal. C'est-à-dire que quand on jouait avec des vrais, vrais purs et durs, eux trouvaient qu'on était un peu léger, et lorsqu'on jouait avec des groupes de rock, eux trouvaient qu'on était trop métal. Donc tu vois, c'est un peu selon avec qui t'es en fait que,
d'accord.
Que ça va définir en fait les niveaux d'intensité de ce que tu joues ou pas en fait.
Ok, et pour terminer, pour essayer donc justement d'avoir une meilleure idée, si t'as quelques, voilà, en tant que musicien, en tant que batteur, je sais pas si t'as quelques musiciens à référence.
Oui, j'en ai quelques-uns, alors qui pour le coup aussi sont du coup très différents, mais on va dire qu'en termes de rock, j'étais vraiment, et je reste un très grand fan de Mike Bordin, qui était le batteur de Faith No More en fait, encore maintenant, quand ils sont reformés, mais qui a notamment aussi joué avec Ozzy et a fait une tournée avec d'ailleurs Korn, qui était à mon avis leur meilleur, parce que lui jouait dedans. Sinon, après, j'ai des batteurs qui sont plus du milieu, justement, plus du milieu rouge, comme Dennis Chambers, qui a été aussi le batteur des P-Funk Funkadelic pendant de nombreuses années.
On voit que c'est des approches et des musiciens assez barrés, enfin qui ont pas peur d'expérimenter. C'est un truc qui t'attire, enfin qui te reconnais.
Ouais, complètement. Avec Silou, l'expression de ça est vraiment différente. Mais moi, au plan perso, c'est vrai que j'aime beaucoup l'expérimentation. Je suis un gros fan de Mike Patton. Là, pour le coup, c'était aussi ma sensibilité en tant que chanteur qui, je trouvais que pour le coup, là, l'expérimentation, que ça soit avec Fantomas, que ça soit avec les différents projets qu'il a eu complètement barrés où il y avait juste batterie basse et lui qui hurlait. Que ce soit Faith No More, j'aimais bien aussi la démarche de Faith No More pour le coup avec le côté qui pouvait être carrément mainstream avec des morceaux qui pouvaient être vraiment beaucoup plus métal. Enfin, j'aime bien cette approche de ne pas rester cantonné dans un truc en fait.
D'accord. Si on revient à Silou, finalement, donc les dernières nouvelles qu'on avait de vous, c'était Black Lace Prophecy en 2012.
Tout à fait.
Et finalement, est-ce que tu mettrais en avant quelques événements clés sur ces 5 années?
Oui, bah, le principal, en fait, c'est qu'il se trouve que sur Blacklist Prophecy, ça faisait quoi? Ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais, donc par le biais d'Arnaud, rencontré après les Décilous et qu'on a commencé à se lier d'amitié et commencé à développer vraiment quelque chose. Donc, en fait, Blacklist, j'y ai un petit peu contribué, mais très peu, parce qu'ils étaient déjà très avancés à ce moment-là sur cet album-là, donc finalement j'y ai un peu participé, et après c'est lorsqu'on l'a développé, lorsqu'on a joué, que là effectivement bah, je faisais partie de l'histoire. Mais la grosse différence, c'est qu'effectivement bah, lorsqu'on a décidé de travailler sur un troisième, là il était question de dire qu'on le fasse vraiment tous les trois en symbiose, vraiment à bosser ensemble. Et donc c'est la différence majeure, c'est que là effectivement celui-là on peut parler vraiment de vrai trio de travail, et du coup d'ailleurs la symbolique du 3 surtout un petit peu ouais. Un petit peu tout au long de l'album, c'est le troisième album enregistré donc en trio, les trois couleurs dominantes de l'album, rouge, noir, blanc en fait, qui font la thématique, enfin vous voyez plein de petits signes, le 3 du coup qu'on a stylisé sur le mot motel pour remplacer le E, enfin voilà, ces petites choses là qui finalement, donc ça a été oui le tournant majeur, ça a été ça en fait, de commencer à dire là on fait vraiment un truc tous les trois ensemble, et en plus ça s'en ressent vu que si t'as vraiment, tu te souviens bien du deuxième album, il y a une vraie différence dans l'expression aussi des choses et dans les couleurs qui en sortent.
Oui tout à fait, il y a juste, sauf erreur de ma part, sur certains photos promo, vous êtes quatre, non?
Oui, parce qu'à un moment donné, il y a eu, on a eu simplement, on avait bossé qu'un bassiste qui finalement, bon, s'est avéré pas, l'expérience n'a pas été très concluante.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, comme il bossait à ce moment-là sur nous, alors qu'on était en train de justement commencer à travailler, retravailler des morceaux pour vraiment aborder le live. Et puis, après finalement, comme il s'est avéré que n'a pas continué d'expérience avec lui, donc du coup après, okay. On a vraiment véhiculé là pour la sortie de l'album sur le trio majeur. Là on travaille avec d'ailleurs un autre bassiste actuellement pour le live.
Et finalement, avec dans l'idée de rester en trio et puis d'utiliser les talents d'un bassiste selon les besoins, ou vous aimeriez évoluer vers à intégrer un quatrième?
On n'est pas du tout fermé, le truc c'est que à l'image de la vie, c'est pas toujours évident quand des fois d'un groupe proche et d'intégrer une nouvelle personne, c'est jamais évident. C'est peut-être un petit peu exacerbé encore dans le milieu artistique et dans la musique du fait des sensibilités. Et bien sûr qu'on n'est pas fermé. Je pense que les jeux de foot se font peut-être quand vraiment ça sera une rencontre en fait. Une rencontre avec vraiment peut-être la personne, on se dit là il vibre au même diapason que nous et on est, ça va le faire.
D'accord.
Mais Arnaud comme moi, multi-instrumentiste, c'était vraiment pas un souci en plus pour l'enregistrement de l'album, parce qu'on a vraiment des idées précises, que ce soit les guitares évidemment, mais j'aime beaucoup la guitare aussi, j'aime beaucoup la basse, donc du coup c'est des trucs qu'après nous on discute ensemble et on peut travailler ensemble en fait.
Oh, ok. Si je regarde le calendrier, là aussi, sauf erreur de ma part, il y a quasiment le même écart entre Not So Sleeping, Not So Beauty, Blacklist Prophecy, Blacklist Prophecy et Motel. Quasiment 5 ans.
C'est vrai.
Chaque fois.
C'est vrai.
C'est votre rythme naturel ou c'est parce que les événements, c'est parce que vous n'avez pas une énorme maison de disque derrière vous, vous n'avez pas les budgets, etc.
C'est un peu tout ça, hein. Je pense que t'as déjà un peu dégrossi le truc, dans le sens où c'est vrai qu'on a peut-être une certaine inertie par rapport à prendre du temps à bosser sur les choses. La vie étant ce qu'elle est, on doit aussi quand même bosser à côté. Faut quand même vivre à côté, donc ça c'est pas forcément évident justement de trouver sur le planning le temps pour vraiment bosser ensemble. Après, en plus de ça, effectivement, au gré des rencontres, au gré de nous ce qu'on a envie de travailler, et puis mine de rien, après quand on a un album qui il faut quand même le véhiculer un petit peu même à notre niveau. Donc tout ça, ça prend effectivement un petit peu de temps, et puis on prend le temps pour essayer de faire les choses au mieux possible en fait.
D'accord.
C'est ça aussi quoi. Plutôt okay. De précipiter, histoire de dire, c'est vrai que de nos jours on est un peu dans une dynamique de tout de suite t'as un titre, tu le sors, tu fais un EP, deux titres, histoire d'exister, faire du buzz, et puis nous on a ce côté, on prend peut-être un peu à l'ancienne, on prend un peu plus notre temps en fait.
Enfin, vous l'aviez fait un an de mémoire entre relativement peu de temps avec Blacklist. Il n'y avait pas un single qui était sorti?
Tu veux dire entre Blacklist et
Et Motel, non, il n'y avait pas. Non. Vous n'aviez pas juste sorti un titre en digital, non?
Exact. En fait, on avait fait une vidéo où il y avait un titre qui était sorti et qui était en fait ni plus ni moins en fait un peu une réaction aux événements du Bataclan.
Ah ouais.
Où là, on avait fait une vidéo qui était un peu qui était une dédicace vraiment à cette tragédie. Et après, non, ce qu'on a véhiculé juste avant, c'était assez proche, c'était il y a quelques mois, pour commencer à faire un petit teasing sur le fait que l'album terminait et qu'il allait bientôt sortir. En fait.
Okay. Et une dernière chose sur le plan business avant d'aller sur l'artistique. Ouais. Vous sortez Motel en autoprod, c'est une situation subie ou un choix assumé?
Alors, pour le coup, là encore, ça switch sur le tantinaire, c'est un peu des deux. Forcément, si à un moment donné, on avait une maison de 10 derrière, peut-être qu'on réfléchirait on y penserait un peu différemment, à se donner les moyens de pouvoir le faire un peu différemment. Maintenant, ce qui est quand même vraiment top, c'est qu'on a eu l'occasion de bosser donc dans un véritable écran de travail, dans le sens où on a pu bosser dans le studio que Arnaud exploite en tant que producteur, le studio 180 à Paris, qui nous a mis dans des conditions vraiment de luxe, puisque t'as la chance d'avoir ton musicien qui est en même temps un jeune producteur. C'est difficile de faire mieux, et en plus t'as l'infrastructure, donc du coup ça nous a permis de finalement, sur cet album, encore dans cette notion de travail vraiment en symbiose, de la première note de la première démo jusqu'à la pochette de l'album, et en passant par la prod, c'est tout fait maison, quoi. Donc ça, on a quand même aussi cette gratification de se dire au moins tout ce travail là en le critiquant bien ou en mal, mais en tout cas on l'a fait avec les tripes et on a tout fait de A à Z.
D'accord, mais vous avez fait la démarche de démarcher aussi, vous essayez de maintenir des contacts réguliers avec des labels pour voir comment ça réagit ou...
On a sondé, mais sincèrement, vu le marché du disque, il est actuellement, c'est vraiment pas simple. Vu qu'on avait vraiment cette possibilité de nous travailler de cette manière, ça a été vite vu quand même. Ouais. On s'est vite dit, de toute manière, là, on a possibilité vraiment de travailler dans des conditions exceptionnelles. On va le faire, on va profiter.
D'accord.
Évidemment, en plus avec la liberté artistique, puisqu'on y vient, la liberté artistique de dire ta propre censure, c'est toi-même en fait. Ça, c'est quand même aussi un luxe de. Un luxe incroyable.
Ouais. Et donc finalement, artistiquement parlant, est-ce que finalement vous avez mis en place un processus habituel ou entre guillemets pour vous sur la création d'un titre? C'est toujours l'un de vous qui amène quelque chose, un riff, une idée, comment ça se construit?
Ouais, tout à fait, on a en fait la chance d'avoir une chanteuse compositrice qui en plus de ça donc est assez assez productive et du coup qui souvent en fait vient à arriver en fait avec des lignes mélodiques, des harmonies sous forme d'accords, donc soit piano, soit guitare voix et après effectivement elle nous les soumet et c'est des trucs que nous on va retriturer dans tous les sens en se disant que par rapport au mood du morceau, par rapport aux accords utilisés, par rapport à l'idée de la ligne de chant, qu'est-ce qu'on a envie, par rapport au texte aussi, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire sortir, quel genre de mood se prêterait à ça. Et ça, c'est effectivement là où Arnaud et moi, on intervient beaucoup plus. Et pour vraiment, et là, on va malaxer le titre dans tous les sens pour arriver à ce qui sera au moment final. C'est ce qui fait que parfois, t'as une démo, t'entendrais la démo et t'entendrais finalement le résultat final de ce qui est enregistré et tu reconnais effectivement la ligne de chant mais tu dis c'est quand même passé beaucoup de choses entre temps, quoi.
D'accord. Mais et tout ça c'est de l'échange de fichiers ou c'est physique? Enfin vous êtes physiquement les uns avec les autres?
Non, ça c'est physique. Hein. Ça, c'est physique, hein. On écoute dans les échanges de fichiers par rapport à des propositions qui s'est faites, on se dit tiens, ouais, tu vois, il y a ça. Et après, dès qu'on a écouté des trucs, on a listé un peu les trucs, là direct on se voit et non, ça c'est des trucs fous. Ça se fait ensemble.
D'accord. Et finalement, sur la dizaine de titres qui apparaissent sur l'album, vous avez bossé combien pour finalement en avoir
Ça devait être entre 17-18 à peu près morceaux.
Et c'est habituel pour vous? Vous êtes très prolifique et après vous faites une tri stricte?
C'est mieux parce que forcément, quand on fuse, tu vois que ça prend quand même. Même si effectivement on peut parler de cette période de 3 ans en temps effectif de travail, c'est évidemment moins que ça. Ça s'est étalé parce que par rapport au planning de chacun, par rapport au temps de recul qu'il y a de digérer un peu les choses, il y a réellement 6 mois de travail plein. Mais ça permet, c'est effectivement, bah, forcément, il y a des types qui vivent un peu moins l'épreuve du temps. Et effectivement, ça te permet de garder ce que toi t'estimes être vraiment ceux qui sont forts et que t'as vraiment pas. Tu ne vois pas ne pas le mettre sur l'album, en fait. Donc, il y en a un ou deux qui étaient des bons types, mais qui étaient quand même moins forts que certains qui sont sur eux.
D'accord.
Sur l'album, ou un peu trop proche de la même ambiance, qui fait que tu te dis là, ça fait un peu doublon et pas l'intérêt.
Et donc, tu le disais, il y a quand même une grosse évolution dans le son du groupe depuis 5 ans et depuis Black Lace. Donc finalement sur cet album il n'y a pas d'éléments composés de l'époque Black Lace où vous faites table rase à chaque fois.
On fait table rase à chaque fois, mais il y a quand même quelques ovnis, puisque en fait il y a un des titres de l'album justement qui lui était en fait une démo qu'un morceau même que je crois avait joué Lady Silou quand elle était encore dans son projet perso, mais quand elle était encore vraiment qu'au tout début, et qui est un morceau qu'on a repris parce que la manière dont on l'a fait sonner là, il collait vraiment. Moi j'aimais beaucoup, c'est un morceau que j'aimais beaucoup en plus, avec un gros refrain, qui est ce genre de morceau qu'on est content d'entendre quand on est un peu fort dans la voiture, et du coup bah, on s'est dit mais là comme on le joue là, franchement il collait au truc et il a fait partie finalement de. Et tu redonnes vie finalement à un truc qui n'avait vu à l'époque sur aucun album, quoi. Donc ça c'est marrant.
D'accord. Finalement, là, quand vous faites le tri, quelle importance vous donnez au fait que le titre se doit d'être accrocheur extrêmement rapidement? C'est un critère fort pour vous ou... Bon, pas tant que ça.
Non, franchement, pas tant que ça. On a la chance, bah, quand je te parlais, tu vois, ça fait partie de cette liberté qu'on a eue. C'est que là, tous les titres qui sont sur l'album, c'est des titres qu'en fait, on appréciait vraiment. Et qu'il y avait, par rapport à ceux qui ont été mis de côté, qui étaient ceux qui avaient le A+. Il y avait des titres A, mais on a mis que les A+ sur l'album. Et franchement, on a cette chance de dire, c'est la chance de ne pas avoir un label qui te demande des résultats, une notion de résultat, bah... C'est cet avantage-là, c'est quand même de dire bah, on met les titres qu'on a envie de mettre parce que ça correspond à ce qu'on a envie de véhiculer, ça correspond au mood dans lequel on est à ce moment-là. Et donc du coup, bah ouais, t'as pas à te dire tiens, qu'est-ce qui pourrait faire un single, qu'est-ce qui pourrait ça, c'est qu'on n'est pas du tout de. Là pour le coup, on a pas besoin d'être dans cette démarche-là en fait.
Oui, je comprends. Ok. Vous allez, bon, même si les fans par Facebook, etc., peuvent se procurer dès à présent, la release party c'est mi-décembre. Donc c'est, on va dire entre guillemets, même si c'est symbolique, mi-décembre, vous allez libérer ce produit vers le public, et puis le public en fera ce qu'il voudra. C'est un, donc à 15 jours de cette échéance, c'est un quoi, c'est un mélange de crainte, d'excitation, les deux.
On a quand même tous un peu de vécu, on a déjà vécu les déceptions qu'on peut avoir lorsqu'on met beaucoup d'espoir dans quelque chose. Là, ce qui est différent, c'est que c'est un album de gens assez matures qu'on se recule là. Et je pense que ce qui en sort, ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'il a été fait vraiment avec beaucoup de spontanéité et beaucoup de sincérité, c'est ce qui en sort. Et c'est un truc qui nous tient à cœur. Il n'y a pas de pause là-dedans. Il n'y a pas de vouloir faire ceci, vouloir faire cela. C'est vraiment un truc qui est sincère. C'est les morceaux qu'on aimait, qu'on avait envie de jouer, le truc qu'on avait envie de donner. Donc là, franchement, en plus, par rapport au retour qu'on a et aux chroniques qu'on a eues, difficile d'être dans la crainte parce qu'on a vraiment beaucoup de chance et on a du retour qui va, les retours vont de bon à très bon à excellent. Donc je pense que jusqu'à maintenant ça arrivera, il y a des gens qui n'aiment pas ta musique. Moi j'ai déjà vécu avec mon groupe à l'époque puisqu'on avait eu, j'avais fait un album aussi, on avait eu des chroniques, t'en as des très bonnes, t'en as des bien et t'en avais des moins bien et t'as un mec qui il peut pas te blairer non plus. Donc ça fait partie du jeu. Donc là-dessus on n'a vraiment pas de stress, on est super content de ce qu'on a fait, très fier de ce qu'on a fait, on y a mis beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et encore une fois beaucoup de sincérité. Et j'espère que c'est un truc qui ressortira, et dans certaines chroniques qu'on a eues, c'est déjà un truc qui revient, donc c'est vrai, ça fait plaisir que les gens aient senti ce truc-là.
Mais donc est-ce à dire que, toi avec ton expérience, toute démarche artistique de ce type-là est finalement assez égoïste? Mais dans le pire des cas, on pourrait dire, vous êtes content du produit, si tout le monde s'en fout, ben, vous êtes content du produit, et ça, dans l'absolu, ça peut même suffire, non?
Ah, ça renvoie évidemment, là on rentre un peu dans... un discours un peu plus philosophique par rapport au, effectivement l'artiste, même si j'ai un peu de mal des fois avec ce mot-là, mais là, disons en tout cas, oui, là dans notre cas, le musicien par rapport à sa musique, mais c'est pas complètement dénué de sens hein, ce que tu dis, puisque forcément à la base il y a quand même, c'est quand même un ego trip. Tu fais de la musique, tu fais sortir quelque chose de toi que finalement tu vas essayer quand même de montrer aux gens. C'est vrai qu'on pourrait se dire que finalement on se suffit en disant j'ai fait ça, j'ai créé ça et ça me suffit, je le mets chez moi et je l'écoute et ça me suffit. Il y a ce côté particulier, je pense beaucoup, alors bon, là pour le coup d'artiste en général, c'est pas que aux musiciens, qui fait que bah ça traduit une forme de besoin d'exister, de montrer qu'on a fait ça, de faire adhérer des gens à ce qui nous plaît et les émotions qu'on a ressenties en faisant telle chose. Donc c'est en ça qu'à un moment donné, bah si en plus effectivement tu fais un truc dont t'es content et qu'en plus au moment où tu le véhicules il y a des gens qui adhèrent, là c'est le top là. C'est le top du top. Si on est tout plusieurs à partager en plus ça, c'est vrai que ça met le truc encore bien évidemment à un autre niveau.
Tout à fait. Pour les autres musiciens qui nous écoutent, il y a une méthode particulière pour se faire chronico dans Rolling Stone?
Ah là, j'avoue que celle-là fait plaisir. Alors, comme je te parlais d'expérience, des musiciens, effectivement, dès qu'on a pris un peu de bouteille, c'est vrai que Rolling Stone, ça reste quand même une sacrée référence. Donc là, j'avoue qu'une chronique, en plus dans le numéro spécial, là pour le coup, on l'a pas fait exprès, leur numéro spécial, et en plus une chronique qui est vraiment plutôt élogieuse, là c'est vrai que j'avoue que j'avoue ça fait fort quoi. C'est pareil, c'est par quelques envois, relationnels interposés de personnes, mais après l'avantage que t'as quand ça passe par un relationnel, c'est que le disque arrive sur le bureau. Après, ça dit pas qu'il va l'aimer. Hein.
Donc c'est, ouais, puis on devine qu'ils en ont un peu, 200 par mois à écouter quoi.
Exactement, t'as tout compris. Donc en fait, la chance que t'as là, c'est qu'à un moment donné, peut-être par rapport aux 200 par mois, il en écoute peut-être que réellement 100. Il y en a peut-être un ou deux à qui on lui dit si, faut que tu les écoutes. Et puis il y en a qui doivent malheureusement passer à la trappe. Donc peut-être que le petit coup de pouce, c'est qu'il arrive plutôt sur le dessous de la pile et qu'à un moment donné, le gars l'écoute. En fait, je pense que la chance, elle est vraiment là. Et puis, mais bon, après, ça reste ton travail. Il peut aussi, il a le droit de dire c'est sans plus. Et puis du coup, il te le chronique pas. Donc là, c'est vrai qu'en plus, ils nous l'ont chroniqué, en plus de ça, avec jolie chronique.
Et alors, c'est peut-être naïf comme question, mais vous avez déjà des retombées? Vous avez noté des conséquences, des différences?
Écoute, non, là, c'est encore un peu, je pense, c'est encore un peu tôt. Et puis, là encore, là, c'est certainement l'expérience qui parle, mais ça reste encore confidentiel, on va dire, du milieu du rock. Je parle rock, donc évidemment rock et un peu dans sa globalité, mais de la musique, on va dire, plus électrifiée. Les retombées, je pense doivent vraiment arriver. C'est lorsque on commence à taper quelque chose qui est l'ordre de plus du national.
C'est sûr, si t'as une chronique, Isa Rock ou Libé, oui, ça commence à faire, mais.
Là, je pense que tu passes encore une étape supérieure, et puis après, qu'on le veuille ou non, il y a toujours le média TV. Et je pense que le jour où t'as ne serait-ce que le petit passage à tel endroit, ou le petit truc du CD qui sort là, effectivement, là, je pense que les retombées, elles joueront vraiment maintenant. Ce qui est agréable, c'est que ne serait-ce que rien que dans le microcosme parisien, qui est déjà important au niveau du rock, c'est vrai que, ça parle un petit peu, donc, c'est un semblant d'ébullition. Après, on verra par la suite, mais c'est plutôt prometteur. Ouais.
Vous avez proposé une vidéo pour un Jupiter's Crash.
Ouais.
En général, une vidéo, c'est un plaisir ou un mal nécessaire?
Ça peut être un plaisir. Le truc, c'est que je pense que ça devient réellement un plaisir dès que t'as les moyens. Alors là, pour le coup, la vidéo, autant la musique, on peut se débrouiller tout seul, autant la vidéo, c'est moins évident. Sauf si, évidemment, t'as quelqu'un de métier qui vient et qui dit, je peux mettre une équipe à disposition gratuitement. Ça, c'est pas évident. Mais là, pour le coup, c'est encore du fait maison. C'est Arnaud Bascugnana qui l'a réalisé.
Ouais, mais c'est simple, soigné, belle image, un beau grain noir et blanc. Enfin, c'est propre.
Complètement d'accord. Ouais, mais je pense que là, pour le coup, c'est un truc qu'on a en commun, qui est un peu l'image, je pense, de l'album. C'est que les gens peuvent ne pas aimer, ils pourront je pense pas qu'ils peuvent dire que ça sonne pourri, que qu'on s'est moqué d'eux dans le sens où le son est crade et la pochette est naze. Après, on peut, après c'est les goûts, les couleurs, mais je pense qu'on a essayé, on soigne vraiment ce qu'on fait. Donc à ce niveau-là, on a essayé aussi de faire quelque chose de propre. Mais c'est vrai qu'on est en préparation de faire quelque chose d'un peu scénarisé, de faire d'avoir un vrai clip sur un titre. Là, on attend un peu de voir comment les choses vont se passer là. Et puis, si effectivement il y a 2-3 personnes qui bougent un peu, je pense qu'on va pouvoir vraiment se concentrer sur un truc. On a quelques pistes et quelques idées, donc d'écriture. Donc, je pense que qui seront bien liées à la thématique de l'album, qui sera vraiment plus qu'une vidéo cette fois-ci filmée où on joue.
D'accord. Et donc une petite dernière question. Finalement, là aussi, t'as, avec ton expérience, quel recul tu as ? Qu'est-ce que tu peux nous dire en général sur la scène rock, alors, parisienne ou française ? Je te laisse juger.
Ouais, bien sûr.
C'est plutôt dans le bon sens. C'est plutôt concurrent. Enfin, c'est très. Enfin, c'est concurrentiel dans le côté négatif. Le gros problème, c'est quoi ? Les salles de moyenne capacité.
Ouais, t'as soulevé pas mal de trucs là. Au départ, j'étais tenté de dire, je te retourne hein, presque la question, mais bon, comme tu veux mon avis. Écoute, moi, j'ai fait partie à un moment donné, on va dire, la mouvance, pareil, c'est des termes un peu, peut-être galvaudés, mais de groupes qui ont essayé un peu, notamment au niveau du rock, ont essayé un peu d'émerger, d'avoir quelque chose un peu plus punchy, tu vois, moi, c'est... je sais pas si ça a connu la période justement, que ce soit Lofofora, Cinemaris,
oui, bien sûr.
One Eye Jack, FFF qui était le groupe en Mélanie. Voilà, moi c'est des gens que j'ai côtoyés parce que on répétait à l'époque dans les mêmes locaux. C'est des gens qu'on croisait régulièrement. Voilà, nous on était de cette génération-là, on était encore dans un cinéma un petit peu différent, mais de cette mouvance-là, on va dire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand t'es entouré par des gens qui jouent, tu les vois tout le temps, on s'est dit quand même à un moment donné, waouh, là, il y a quand même quelque chose qui se passe et ça va prendre. Et je vois que 20 ans plus tard, j'ai pas l'impression que finalement ça a décollé comme ça aurait pu. J'ai trouvé ça super prometteur. FFF a quand même réussi à, c'était quand même en plus un putain de groupe de scène, il se passait quelque chose. Et malheureusement, j'ai pas la sensation que ça ait vraiment pu décoller comme ça aurait dû.
Ouais, mais il y a eu aussi des versions, je sais pas, genre No One Is Innocent, il y a eu...
No One, c'était un peu la même période, hein, la peau, c'était... Alors No One, c'est vrai, tourne encore,
mais... Bon, là, ils sont crachés pour des raisons qui n'ont rien à voir, mais est-ce que la queue de ça et là où ils ont eu du succès, c'est pas les Noirs Désirs & Co?
C'est bon, tu parles de nous, parce que eux ont réussi finalement, c'est un peu ceux qui ont tiré le mieux leur épingle du jour en fait, sur quelques années. C'est bon, je dis ça parce qu'il y a de grandes chances que je vois d'ailleurs Kemar, le chanteur de No One, peut-être même tout à l'heure. Donc c'est ceux qui finalement ont réussi un petit peu à véhiculer un truc qui ont mieux que. À la fois, c'est ceux qui ont eu le plus de succès en termes de single quand même à l'époque de la peau, ça, quand même, ils ont pu quand même vivre là-dessus et quand même pendant un bon moment. Et du coup, ça leur a permis après de se tailler une réputation, c'est un bon groupe de live aussi, et de vivre là-dessus. Mais après, encore une fois, autour de ça, je sais pas. Après,
mais c'est quoi, c'est le public qui a pas suivi? C'est les mecs se sont épuisés et ça, ils ont pas eu les moyens nécessaires? Enfin, comment ça se situe?
Je pense que les gars s'épuisent parce qu'effectivement, c'est compliqué, on se heurte encore maintenant. À l'époque, je pensais que ça allait changer, mais on se heurte encore maintenant à un truc culturel. Ça, c'est, on peut pas y échapper. Je pense que c'est, il y a le bon et le mauvais côté de ça, mais la musique très électrifiée en France, alors que pourtant on le sait, toi comme moi, tu es dans le milieu aussi, il y a un public, mais on veut pas lancer ça au grand public. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, c'est quand même compliqué quand tu allumes ta radio, une radio nationale basique. La plus grosse guitare saturée que t'entendras sera peut-être dans un morceau de Johnny Hallyday ou de Florent Pagny.
Oui, d'accord.
Malheureusement, là où effectivement la grosse différence, où tu vas aux États-Unis tu mets l'équivalent du radio national, le mainstream, ça sera Metallica. Et là, effectivement, ça change tout. C'est juste culturel, malheureusement, d'être pris par ça. Il y a de bons côtés à ça, il y en a des moins bons. Donc c'est sûr que quand tu, pour les jeunes musiciens, même quand tu rentres dans un contexte où tu te dis, moi j'ai envie de m'éclater dans mon rock un petit peu plus péchu, voire du son un peu extrême, c'est un peu compliqué quand même.
Ok.
Malheureusement, je crains que. Alors, il y a peut-être de nouvelles vagues, mais je crains que c'est vraiment un problème qui est un petit peu plus profond, dont on n'arrive pas à se détacher. Comme s'il y avait un problème par rapport à ça. Je pense que culturellement, les Latins, peut-être, sont un petit. C'est un peu plus dur par rapport à ça. On va vouloir entendre des belles voix et quelque chose de plus classique dans la composition, dans le sens même musique classique, avec des belles envolées. Donc la variété française, pour ça, tourne toujours. On retrouve ça un peu en Italie, et j'ai l'impression qu'effectivement, dès que on rentre dans une musique qui pourtant correspond à beaucoup de gens, les radios te sont quand même déjà fermées. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué de pouvoir en vivre à partir du moment où les gros diffuseurs, les gros médias ne suivent pas.
D'accord, mais je pense qu'on partage malheureusement le même constat.
Ouais.
Bah écoute, je te remercie, c'était très agréable de discuter avec toi.
Ouais, c'est un plaisir, merci en tout cas de t'intéresser au travail, c'est cool.
Tous mes vœux pour la release donc du 15 que vous donnez donc au Dr Feelgood.
Yes.
Et puis à très bientôt pour les suites des aventures de Silou.
Ouais, super, merci beaucoup à toi.
À bientôt, ciao.
Pour toi, bien. Ciao.